À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Françoise Huguier, photographe éventuellement, mais très curieuse.
Quatrième épisode, photographe de l'intimité. Bonsoir Françoise Huguier.
Bonsoir.
Si je vous dis photographe de l'intimité en parlant de vous, est-ce que cela vous convient? Est-ce que ça vous semble approprié?
Tout à fait, parce que ça continue dans l'expression la curieuse, parce que j'aime bien évidemment pour l'intimité, j'aime bien aller chez les gens, et puis j'aime bien que les gens me racontent leur vie. Alors en plus en photo, encore plus. Donc c'est vrai que ça a commencé effectivement, ça a commencé en Sibérie.
Ouais, Sibérie, c'était juste après l'Afrique. Hein.
L'Afrique, oui.
Vous êtes allé en Sibérie en 92.
Mais en Afrique, en traversant l'Afrique, j'ai fait moins de photos chez les gens. J'habitais parfois chez les gens, mais j'ai fait moins de photos. Mais par contre, ça a commencé parce que en Sibérie, j'habitais dans les villages, j'habitais chez les gens. Et puis quand j'étais avec les gardiens, enfin les troupeaux de rennes là. Et avec eux, j'habitais chez eux aussi, enfin sous la tente, quoi. Enfin, ça s'appelle des tipis, hein. Ou des yourtes pour les tchouches, près du détroit de Berry. Et là, autrement, dans les villages, j'habitais soit dans les écoles, soit chez les gens.
Ça a duré 6 mois, hein, en Sibérie polaire.
Ça a duré 6 mois.
Hein,
donc, et chez les gens, c'était très intéressant, parce que comme on n'avait pas grand-chose à manger... Enfin, si, mais par exemple, les oranges et tout ça, ça on n'en voyait pas, les bananes non plus. Et souvent, même les tomates, et souvent, chez eux, il y avait des plants de tomates. Et le problème, c'est qu'il y avait des cafards dessus. Donc, du coup, j'avais pas du tout envie de les manger. Bon, donc, mais ça a commencé comme ça. C'est en habitant chez les gens que j'ai fait beaucoup de photos chez les gens, ben, leur intimité, quand ils dorment, etc., comment ils sont arrivés là, comment ils se sont connus, si c'est un couple, leurs enfants et tout ça. Donc, évidemment, c'est la parole, puis après, c'est la photo.
Oui, c'est d'abord la parole. Vous dites la photographie, c'est d'abord parler.
D'abord parler. C'est d'abord parler.
Enfin, c'est faire parler plus que parler,
oui,
non?
Mais il faut savoir les faire parler aussi.
Alors, comment on fait? C'est quoi le petit secret?
Les petits secrets, ben, si on prend par exemple ce que j'ai fait pour le Grand Paris, c'est-à-dire 45 familles autour des futures gares, il va y avoir 68 gares. Et moi, j'arrivais, je leur disais, ben, il va y avoir les gares du Grand Paris, j'étais pas du tout au courant. Et au début, chez les gens, quand on arrive, en général, je faisais ça le week-end parce qu'il y avait les enfants. Dans la semaine, c'est plus compliqué, soit les gens travaillent. Bon. Donc souvent, je faisais ça le samedi ou le dimanche. Et j'arrivais chez les gens, qui étaient d'accord d'ailleurs. Au début, ça n'a pas été facile, mais j'ai fait des demandes par Facebook. Et ça a marché. Hein. Et après, c'était des amis. Puis souvent, j'allais voir aussi à la mairie, parce qu'il y avait des logements sociaux et tout. Mais c'était pas évident au début hein, pour trouver des familles. Donc j'arrivais chez les gens avec mon appareil. Et puis, on prenait le café ou le thé, ça dépendait des gens. Et puis, on parlait. Moi, je leur demandais de me raconter un peu leur vie. Et puis, moi, je racontais évidemment ma vie, mais j'ai dû raconter 7 vies différentes. Ben oui, parce qu'à force, bon, fallait bien que je trouve des choses. Et puis pendant qu'ils me racontaient leur vie et que moi je racontais ma vie, j'avais les yeux qui furetaient partout. D'ailleurs, il y a des gens qui disent que j'ai des yeux comme des scanners. Et je furetais partout. Par exemple, moi je me souviens chez une femme qui était sénégalaise qui m'a raconté sa vie, qui était très intéressante. Il y avait une boîte de dragées pour les mariages en forme de cœur. Donc j'avais repéré tout de suite la chose pour les natures mortes. Hein. Et puis, après les discussions et le café, je leur disais, ben, si vous voulez, je vous aide, on va dans la cuisine et puis je vais vous aider à laver les tasses. Ils me disaient, non, mais bon, comme ça, je connaissais la cuisine. Et puis, après, je leur disais, mais est-ce que je pourrais aller aux toilettes? Alors, ils me disaient, oui, ben, c'est là. Alors, la plupart des temps, je sais pas comme chez vous si c'est comme ça, mais il y a des photos. Il y a des journaux, Il y a du papier toilette, évidemment. Chez les gens qui sont musulmans, il y a une bouilloire plastique, pour certains. Moi, chez mes copains maliens, c'est souvent comme ça. Et puis, donc je sortais, je disais, ah ben c'est le petit garçon qui est là sur la photo, dans les toilettes, c'est qui? Alors il me disait, ah ben c'est mon petit-fils ou c'est mon fils. Et après il me disait, ben vous voulez visiter l'appartement? Ben évidemment je disais oui.
Et ça y était.
Et ça y était, alors je faisais le tri de la garde-robe, je dis, oh ce serait bien que vous mettiez cette robe et tout. Et puis le lit, vous pouvez pas vous mettre en robe de en chemise de nuit pour que je vous prenne dans le lit. Et puis il y en a certains, j'ai dit ben pourquoi pas sous la douche. Ils ont dit oui.
Ah les gens acceptent comme ça.
Pas comme ça. Il faut savoir faire. Mais le fait
vous
que
vous arrivez à les faire aller dans oui. leur lit et sous la douche.
Oui. Et il faut dire que je suis une femme. Hein. Au début de la photo, j'aurais jamais fait ça. J'aurais jamais osé. Mais j'ai l'âge que j'ai, et puis je suis une femme. Et ça, ça change tout. Entre femmes, parce que c'est souvent les femmes...
C'est souvent des femmes qui sont représentées.
Qui font visiter, évidemment, l'appartement. Mais j'ai des hommes, hein, que j'ai pris aussi sous la douche aussi. Donc, mais que je connaissais un petit peu déjà, oui.
Et puis des hommes, si on revient à la Sibérie, il y a aussi beaucoup d'hommes qui, alors pas oui. sous la douche, mais non. il y a beaucoup d'hommes dans leur habitat.
Dans leur habitat,
mais
oui.
Qui posent, hein, oui, devant oui, votre oui, objectif.
Oui. Oui, oui, oui.
Ce travail, c'est un travail formidable, mais racontez-nous déjà comment vous y êtes arrivé en Sibérie, parce qu'on s'est quitté hier, oui. En Afrique.
Oui.
Là, vous avez fait un oui. grand voyage. Donc, encore une fois, ça a duré 6 mois. Ça a donné lieu à un livre, hein, là aussi, En route pour Bering. Quelle idée de partir là-bas vous a pris?
Ben, ce qui s'est passé, c'est quand je suis revenue, je voulais aller dans une région du monde en Russie, parce que j'étais très attirée par la Russie. Et je voulais aller en Russie et je voulais aller dans un endroit où il n'y a pas d'arbres.
Pas d'arbres?
Ben oui, c'est la toundra. Parce que l'Afrique, j'avais fait surtout le Sahel où il n'y avait pas d'arbres. Donc je voulais aller en Russie, dans un endroit où il n'y a presque pas d'arbres, donc c'est la toundra. Près de la mer Caspienne, j'avais fait un essai et ça marchait pas parce qu'il y avait plein de forêts. Et là, je dis non, c'est pas ça que je veux. Et j'avais un interprète qui, lui, avait fait des études de géologie et qui m'a dit, tu sais, à mon avis, c'est la toundra qui va te plaire. Donc effectivement, je suis revenu à Paris. Et là, j'ai organisé le voyage pour aller donc de Salerat, qui est la presqu'île de Yamal, où il y a les Nénètes, où maintenant il y a Gazprom, et jusqu'au détroit de Bering pendant 6 mois.
Alors c'est quand même un voyage ethnophotographique. Hein.
Tout à fait, et en plus, moi je me souviens, à l'agence du Christian Kojol m'a dit « mais t'es complètement folle de repartir tout de suite ». Et j'avais très 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 envie de refaire un grand voyage comme ça.
Alors c'est vraiment un grand voyage, hein, parce que oui. Vous avez photographié des extérieurs, l'océan Arctique, oui. le retour de la chasse aux morses, oui. les cimetières, les pêcheries, les abattoirs, et puis donc des intérieurs, beaucoup
des intérieurs,
d'intérieurs.
Et puis l'usine à Norilsk, c'était des usines, des aciéries.
Une fonderie de nickel, une briqueterie.
Oui, une briqueterie, et puis aussi des aciéries, et c'était extraordinaire, quoi, extraordinaire. J'ai eu de la chance parce que j'ai habité chez le chauffeur, on appelait ça des combinats, hein. les grandes usines comme ça en Russie, on appelait ça des combinats. Donc le chauffeur du directeur, donc il a dit bah écoute, je vais lui demander si c'est possible, et il m'a fait rencontrer la personne qui s'occupait de la photo dans les usines. Et le monsieur a dit oh, bah c'est génial. Faut dire qu'il avait pas vu de photographe étranger depuis 70 ans, hein. Donc j'arrivais moi complètement ils n'avaient pas vu des gens des étrangers depuis très très longtemps. Peut-être des Finlandais, hein, parce que il y avait des rapports avec la Finlande, mais très peu. Et donc, du coup, grâce à ce monsieur-là qui m'a ouvert toutes les portes de toutes les usines et même des camps aussi, parce qu'il y avait des camps militaires. Et là, c'est pareil, les camps militaires. Moi, j'y étais aussi. Et j'étais très frappé dans les camps militaires parce que c'est une période quand même où tout juste y toucher leur salaire. Et souvent dans les camps militaires que je voyais, où j'avais été, je pouvais même prendre des photos, bah, ils faisaient de la chasse, donc ils me disent bah, « tu veux pas un lapin, tu veux pas m'acheter un lapin, etc. » J'étais un peu sidéré. Hein. Et une autre fois, dans un camp militaire comme ça, j'ai pris le brise-glace donc pour croiser le détroit de Bering, où j'ai fait du stop brise-glace. Et ça, c'est un miracle, parce que mon interprète Valodia a dit, mais François, c'est impossible, il y a le KGB à l'intérieur, dans le brise-glace et tout. J'ai dit, impossible, il n'est pas français. Et effectivement, j'étais à la capitainerie, ils ont envoyé un message, Titi Tata, il n'y avait pas le téléphone à l'époque, hein. Titi Tata, c'est le morse, et le capitaine du brise-glace, qui était un géorgien, a dit « Oh, mais des Français, c'est formidable et tout. » Et 4 jours après, on a embarqué. Et on a croisé le détroit de Bering comme ça. Après, il m'a laissé à Providania, qui était juste en dessous du détroit de Bering. Et là, moi, je voulais lui parler, mais toujours en titi-tata, quoi, en morse. Il voulait absolument que je parte avec lui dans le sud de la Russie, près du Pacifique. Et moi, j'ai dit « Non, 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 moi, je reste là. » Et donc, je voulais remercier Sergueï. Et le seul moyen, c'était d'aller dans le camp militaire. Et c'était un camp en bois, et tout entouré de bois, et il y avait un mirador. Et donc, je monte les marches, et puis tout d'un coup, on entend une mitraillette qui est en train de faire du bruit. Et Valodia dit, non, 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 c'est des Français, vous inquiétez pas, on voudrait voir le responsable du camp, qui était un colonel. Donc le colonel est venu et il nous a dit ben, « il n'y a aucun problème, venez ». Et quand je suis arrivé dans la première pièce, il y avait toute une ligne de jeunes hommes qu'on rasait. C'est très étonnant, j'ai la photo. Et puis après, on était dans son bureau. Et dans son bureau, il y avait la télévision. Et il regardait un film français, j'étais sidéré. Le Comte de Monte Cristo. Alors là, j'étais sidéré. Ben oui, même au détroit de Bering, ils connaissaient le comte de Monte Cristo. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est que devant toutes les cartes, il y avait des rideaux. Parce que pendant toute une époque, les Russes n'avaient pas le droit de regarder les cartes. Donc j'ai appris ça comme ça, quoi. J'ai appris, voilà. Et puis...
C'était donc des lieux à la fois privés, hein. On parle de l'habitat, mais de l'intimité et de l'intérieur.
Et de l'intérieur, donc, c'est ça.
Des lieux privés, mais c'est aussi des lieux professionnels.
Hein. Des lieux professionnels,
des usines, des bureaux dont vous parlez.
Mais c'est grâce aux gens chez qui j'ai habité. Et à côté
vous ouvrez d'autres portes, en fait.
Exactement. Et quand j'étais là à Providania, là j'ai habité, parce que là j'arrive pas à trouver chez les gens... Donc j'ai habité dans un hôpital de tuberculeux. Je prenais des risques. Hein. Donc on a habité là, mais bon, c'était les moyens du bord. On essayait à chaque fois de trouver des endroits pour dormir. Hein. Il n'y avait pas d'hôtel. Hein. C'était, je vous dis, chez les gens ou dans les écoles. C'est tout.
Et d'une certaine façon, vous avez reproduit cette approche de l'intérieur et de l'intimité des gens en 96 et 97, quand vous êtes retourné au Mali, à Ségou, oui. Et au Burkina Faso, chez les lobbies. Vous êtes entré vraiment dans une vraie intimité, puisque c'était dans la chambre des femmes. Pas rien, la chambre des femmes, c'est là que sont conservés leurs secrets.
J'avais eu cette idée-là, parce que en ayant ma maison à Ségou, donc il y avait beaucoup de femmes qui étaient venues me parler de la polygamie, de l'excision, etc. Et donc, j'avais eu l'idée, elle m'avait dit justement que dans leur chambre, elles avaient leurs secrets. Parce qu'en fait, dans la polygamie, les hommes, c'est des bourdons, ils n'ont pas de chambre. Donc, s'ils ont 2 femmes, ils passent 2 jours avec une femme dans sa chambre et 2 jours. J'en ai fait l'expérience, parce que je ne suis pas polygame, mais j'en ai fait l'expérience parce que j'étais à Bamako, j'habitais chez un monsieur qui était malien, qui était pharmacien, et j'habitais dans sa cour. Et le soir, j'arrivais, il fermait toujours la porte de sa cour. Et le soir, j'arrivais de concert ou d'aller voir des copains. Et c'était fermé. Alors, je frappais à une fenêtre et j'entendais la femme qui disait « Non, non, il est avec l'autre ». Et c'est comme ça que j'ai appris que, bon... Et c'est en parlant aux gens. Et du coup, j'ai eu envie de faire la chambre des femmes, donc secrète.
Secrète, c'est le titre du livre chez
Actes Sud. Elles ont tous leurs secrets, quoi.
Vous êtes très sensible, Françoise Huguier, à la lumière, évidemment, oui. Hein, en tant que photographe, mais vous aimez beaucoup la lumière. L'intimité, à quelle lumière?
C'est une lumière douce, mais persistante. C'est ça, l'intimité. Et puis, je pense aussi que dans l'intimité, donc, on met le... Enfin, surtout moi, si tu as vu... C'est-à-dire que je choisis un angle qui fait que c'est la direction de la lumière. Je ne veux pas dire que je suis la lumière. Hein. Je ne suis pas le Saint-Esprit. Hein. c'est vrai que ça me permet justement d'aller jusqu'au bout, de voir quel cadrage je vais faire et jusqu'où je peux aller dans l'intimité.
L'intimité, c'est les corps également.
C'est les corps.
Alors, on a déjà vu que vous coupiez des têtes, oui, et que vous aimiez particulièrement les dos. C'est, oui, vrai aussi, dans Secrète, en tous les cas, elles sont souvent de dos.
De dos.
Et puis c'est des nus.
Et puis c'est des nus.
Aussi, oui, des nus. Des nus que vous avez photographiés au Japon, en Sibérie, oui, aussi, oui, dans les bains publics.
Dans les bains publics.
Dans,
oui,
les bains publics, oui, là aussi, on a une forme d'intimité et d'intérieur.
Oui, oui, oui. Mais ça, j'ai eu de la chance en Sibérie de pouvoir les faire. Ce qu'on appelle les banyas. Alors il y a le côté homme et le côté femme. Et en Sibérie, j'ai fait peu de côté homme. Mais par contre, au Japon, j'ai fait les deux. Mais une fois, à Saint-Pétersbourg, je suis retourné. C'est avant que je fasse le film, la Communalki. Et j'ai été faire des photos avec mon interprète. Valodia, lui, était du côté des hommes. Et moi, j'étais avec une amie russe. Et puis, on a été dénoncés. Donc la police est arrivée, on m'a pris mon appareil et ma pellicule, et puis on nous a emmenés au poste. Le responsable du poste a dit, on va vous mettre dans la même cage qu'un tuberculeux. Bon, d'accord. Alors en plus, mon interprète Valodia n'était pas du tout au courant que moi j'avais été embarqué par la milice, quoi. On appelle ça la milice. Et du coup, y a une recherche, il se trouvait que... On avait une amie qui connaissait très bien le directeur de la police, donc il a su effectivement où j'étais. Mais il a fallu payer pour que je sorte. Il a fallu que je paye.
En Russie, Françoise Huguier, où vous avez passé beaucoup de temps, parce que dans les appartements communautaires de Saint-Pétersbourg, les fameux communalki, vous y avez passé presque 10 ans à raison de 2 mois par an à photographier. Et à cet endroit-là, il y a notamment une photo que vous n'aimez pas, d'ailleurs, je crois, mais qui est très connue de vous et qui a beaucoup de succès, qui est un nu, justement.
Oui.
Qui est un nu à la salle de bain.
C'est le nu à la salle de bain. Alors, c'est dans un appartement communautaire où j'ai habité, qui était tout petit, hein. Donc, effectivement, la salle de bain, c'est la salle de bain commune, hein.
Oui, parce qu'il faut quand même expliquer, hein, oui, surtout aux plus jeunes de nos auditeurs et nos auditrices, c'était quoi les communalki?
C'est Lénine qui a décidé, à la fin de Lénine, qui a décidé, parce que c'était la construction de l'Union soviétique. Bon, il y avait beaucoup de gens de la campagne qui allaient travailler dans les usines et qui fallait loger dans la ville. Sauf qu'il n'y avait pas d'argent pour construire ce qu'on voit maintenant en banlieue à Saint-Pétersbourg ou à Moscou. Donc, ils ont fait quelque chose, surtout à Saint-Pétersbourg, à Moscou aussi, pas mal, qui s'appelait Tasser le bourgeois. Donc, ils arrivaient chez les gens, ils disaient, vous avez un appartement. Donc, on vous garde 2 pièces, et puis on va loger des gens qui viennent travailler, et la cuisine sera en commun, la salle de bain en commun. Alors, vous imaginez, alors, si vous refusiez, évidemment, c'était le goulag. Hein.
Et donc, ils se sont retrouvés, entassés à plusieurs dizaines, dans des appartements.
Oui, dans les appartements communautaires.
À partager, donc, des salles de bain.
À partager les salles de bain, et puis les travaux. Alors, moi, j'ai photographié des appartements qui étaient sublimes, de 300 mètres carrés, hein. Mais fabuleux, avec les moulures et tout. Mais il y en avait d'autres qui étaient beaucoup moins dans cet état-là.
Dans le nu à la salle de bain, ça n'a pas l'air d'être très, très riche, par exemple. Hein.
Non, cet appartement, j'ai photographié près de la gare de Saint-Pétersbourg. Et là, c'était très, en très mauvais état. Et la jeune femme, elle est kirghize. Et elle s'est coupée les cheveux, je l'ai revue, parce que je suis retournée en 2017 pour l'anniversaire de la révolution russe, hein, 1917. Donc j'y suis retournée à ce moment-là pour l'anniversaire. Et donc je l'ai revue et elle s'est coupée les cheveux là maintenant. Et elle a fait des études d'architecte et elle est kirghize d'origine. Et effectivement, c'était ma voisine. Bon, j'ai demandé, ça posait aucun problème. Aucun problème. Alors effectivement, cette photo, les gens adorent cette photo. Moi, je trouve qu'elle est très picturale.
Vous avez quelque chose contre la peinture?
Non, mais moi, c'est pas mon inspiration. Moi, c'est le cinéma, mon inspiration, vous le savez. Donc, moi, à partir du moment où ça ressemble à un tableau, où c'est un peu influencé des tableaux, donc je dis, moi, j'aime pas. Mais c'est fou, parce que les gens adorent cette photo, quoi.
Elle a beaucoup de succès.
Oui, elle a énormément de succès.
Alors, Communal qui, ça a été une exposition aux rencontres de la photographie d'Arles, un livre chez Actes Sud et un film présenté au Festival de Cannes qui a en plus emporté le prix Anna Politkovskaya au Festival international du film de femmes de Créteil. Vous y avez quand même passé vraiment très longtemps. Donc ça veut dire que vous vous êtes fait accepter des gens là-bas, vous viviez presque comme eux, vous viviez vous-même, vous aviez loué, je crois, une chambre dans un appartement communautaire.
Une chambre dans un appartement communautaire, oui, plusieurs fois. J'ai connu les appartements communautaires parce qu'avant de partir en Sibérie, moi je suis très, très influencée par le chamanisme, hein, j'aime beaucoup. Et il y avait une ethnologue à Saint-Pétersbourg qui était spécialiste du chamanisme, qui vivait dans un appartement communautaire. C'est comme ça que j'ai découvert. Parce qu'en fait, dans les appartements communautaires, il y avait toutes sortes de gens. Moi, j'ai connu des médecins, des philosophes, des peintres, un peu tout le monde. Hein. Alors après, ce qui s'est passé, c'est à l'époque de Gorbatchev et Helsine, si vous étiez depuis 10 ans dans un appartement communautaire, dans une chambre, vous pouviez être propriétaire. Mais propriétaire, il faut faire les papiers, enfin c'est Kafka, quoi. Et finalement, il y avait beaucoup de chambres dans l'appartement que j'ai filmé. Il y avait beaucoup de gens qui étaient propriétaires de leur chambre. Mais c'est, sauf la cuisine restait tout le temps en commun. Et la salle de bain aussi. Mais leur chambre, ils étaient propriétaires. Donc après, ils pouvaient le revendre.
Alors, c'était une bonne expérience pour vous ?
Ah, ça a été une expérience formidable. Parce que j'ai appris énormément de choses. Et puis, le premier appartement que j'ai visité, c'est l'appartement qui est juste à côté de celui que j'ai filmé. Et en fait, dans cet appartement-là, le matin, dans le couloir, parce que le couloir est très important, c'est là où on voit les gens, hein, parce qu'ils sortent de leur chambre, et c'est là où on voit les gens, ou dans la cuisine. Et là, tout d'un coup, j'ai vu arriver une dame, que j'ai pris en photo d'ailleurs, et qui avait des mules un peu rétrogrades, quoi, des mules, oui, des petites, des chaussons mules, là. Et puis, elle était en robe de chambre, elle vient vers moi, elle me dit... Tu connais les livres de François Sagan ? Mais j'étais sidéré. C'est ça la Russie. Hein.
Dans ce travail, justement, vous parlez beaucoup de femmes. Dans ce travail sur les communautés,
il y a
aussi beaucoup de femmes.
Il y a beaucoup de femmes. Moi, les premiers appartements que j'ai faits, j'étais sidéré parce qu'il n'y avait presque pas d'hommes.
Mais ils étaient où, là, les hommes ?
C'est pareil. Puis très peu d'enfants. Il y a un gros problème en Russie, je sais pas si maintenant c'est pareil, il y avait un gros problème de maternité. Parce que moi, là, il y a une femme que j'ai photographiée, elle était avec sa fille, et elle m'a dit à la maternité, j'étais seule. Il y a très peu d'enfants. Et les hommes, j'étais pas là, ils sont partis. Ils sont partis, se sont séparés. Il y a beaucoup de femmes.
On parlait du nu à la salle de bain que vous n'aimez pas, Françoise Huguier. Il y a une autre photo qui est d'ailleurs sur la couverture du livre, qui est une femme allongée, nue.
Oui.
Elle est allongée sur des journaux. Mise en scène, ça, c'est elle qui a voulu le faire, c'est vous ?
On m'a dit, tu sais, il y a au centre de Saint-Pétersbourg, près de Nevski, Prospect, l'avenue principale, il y a un immeuble où il y a beaucoup d'Ouzbeks. Donc je me suis dit, ce serait peut-être intéressant d'aller les photographier. Et puis, je suis arrivé avec mon interprète, qui était plus Valodia, qui s'appelle Slava, qui est un monsieur absolument extraordinaire. Et tout d'un coup, la porte était un peu entrouverte, et j'ai vu une femme en train de peindre son appartement avec des journaux par terre. Donc, comme j'étais dans la série de nu, donc je suis rentré, et je lui ai dit bonjour, on a un peu parlé. Et puis, j'ai dit à Slava, j'ai dit, est-ce que tu peux lui demander ? Alors, j'ai d'abord pris avec un slip, hein, et après, je lui ai dit, est-ce que ça vous ennuie de vous mettre dans les journaux, de vous mettre nu sur les journaux ? Les nus, ça n'a pas été au début. Hein, c'est quand j'ai visité les Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, qui était une école absolument extraordinaire, j'ai commencé parce qu'ils faisaient beaucoup de nus. Hein, et là, je me suis dit, mais pourquoi j'en ferais pas des nus ? Donc j'ai commencé par faire une des filles qui était modèle.
C'est très pictural, le nu.
Évidemment,
oui. Il n'est pas l'aspiration picturale.
Et alors, il y en avait une que j'ai en photo aussi, après j'ai été chez elle, et qui, elle, posait nue pour les modèles, quoi, qui était modèle. Et après, j'ai eu l'idée, et en fait, j'ai eu aucun problème. Ici, je ne pourrais pas le faire. Parce que, en fait, poser pour un artiste, c'était encore, je sais pas encore maintenant si je pourrais le faire en Russie, mais à l'époque, en Russie, poser pour un artiste, c'était important.
Peut-être pas en France, hein, Françoise Huguier, mais en France, vous faites d'autres choses avec les corps,
oui.
En particulier qui faut se faire accepter aussi, en particulier après le Covid, à l'occasion d'un accident que vous avez eu au bras,
oui.
Vous vous êtes retrouvé dans un cabinet de kinésithérapie et vous avez commencé à photographier les patients qui venaient, donc des parties du corps,
oui.
Les tatouages, parce que vous aimez beaucoup les tatouages, les cicatrices.
Les cicatrices.
Ça, c'est encore autre chose, hein,
dans l'intimité. Oui, mais j'ai rarement fait de photos dans les hôpitaux. Je crois que j'ai photographié une fois un accouchement. Hein. Mais j'ai rarement fait de photos. Et là, j'avais assez envie, ce n'était pas à cause de mon bras, mais j'avais assez envie de photographier les tortures que l'on nous fait faire.
Ah bon?
Non, je plaisante. Hein. Il serait très content.
Votre kiné.
Mon kiné, oui. Et j'ai eu de la chance parce qu'il a accepté. Et finalement, je suis sidérée parce que les gens... pour les portraits, et à chaque fois que je les prends en photo, ils sont demandeurs. Parce que aussi, je fais très attention quand quelqu'un arrive et que la personne a des soucis ou qu'elle a eu un problème de capsulite ou de main écrasée. Moi, je fais très attention parce que je sens, à force d'avoir pris des photos, je sens que la personne est tout en douleur, démoralisée, comme moi j'étais au début, hein. Démoralisé, donc je sens les choses beaucoup. Et après, elle me raconte, et puis...
La confiance s'installe.
Ouais, s'installe, etc.
Elle vous demande de filmer.
Et puis...
j'allais dire de filmer, vous voyez.
Et puis, le matin, moi, quand j'y vais 4 fois par semaine, je me réveille un peu glauque, et quand j'y vais, je suis en pleine forme. Et je sors, je suis de nouveau glauque. Et c'est vrai que le fait d'être avec ces gens-là, de parler avec eux sur leur travail, qu'est-ce qu'ils font... pourquoi ils ont eu ça à la main, comment ils sont tombés, etc. C'est des histoires qui m'intéressent, quoi.
C'est une photographie du quotidien aussi, mais c'est une photographie qui est mise en scène. La mise en scène, on va forcément y venir demain, puisque nous allons parler demain du cinéma, du cinéma tel que vous l'aimez, du cinéma tel que vous l'avez mis en scène vous-même dans vos propres séries photographiques. À demain, Françoise Huguier. C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Andreas Jaffré, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.